soir et bon début de semaine à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, appelle à des sanctions contre le Rwanda et exclut tout dialogue avec le M23. Il a rappelé samedi 18 janvier 2025 au corps diplomatique accrédité à Kinshasa lors de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux du début d'année. Félix Tshisekedi affirme que le dialogue avec ce groupe armé reviendrait à légitimer ses actions illégales et à saper les principes fondamentaux de l'État congolais. De son côté, Kigali conditionne la reprise du processus de Luanda par un dialogue entre Kinshasa et les rebelles. Pendant ce temps, sur la ligne de front, les combats opposant l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda s'étendent vers Calais dans la province du Sud Kivu selon plusieurs sources. Quelle chance accordée au processus de Luanda pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous en parlons ce soir avec Juvenal Munubo. Il est avocat, cadre de l'Union sacrée de la nation et député national. Maître Munubo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Espoir Ngalouki est cadre du parti politique Ensemble pour la République. Il est coordonnateur de la Ligue des jeunes de ce parti dans la province du Nord Kivu. Espoir Ngalouki, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir au président.
Votre ligne a des petits soucis. Espoir Ngalouki essaie de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Aussi avec nous dans cette émission, Mwaila Chiembe, il est professeur et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Mwaila, bonsoir.
Bonsoir, Madame Guédé.
À Bukavu, Sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et pour vous qui êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X de Radio Okapi, ainsi que sa chaîne YouTube. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Alors que les combats s'intensifient ces derniers mois dans l'est de la RDC, la position du chef de l'État, Félix Tshisekedi, reste ferme face aux rebelles du M23 et au Rwanda, leurs parrains. Le président congolais a réitéré ce week-end son refus de tout dialogue avec le M23, ce qui ne semble pas être l'avis de Kigali à ces sujets. Pour en parler, nous sommes en contact avec notre confrère Bernardin Nyangui depuis Goma au Nord Kivu. Pour nous en dire plus, je vous propose de l'écouter. Alors, je disais qu'on va joindre notre confrère Bernardin Nyangui de la rédaction de Goma pour en parler. On me signale que la ligne de Bernardin pose problème. Alors, Juvenal Munubo, vous êtes avocat, cadre de l'Union sacrée de la nation, député national. Le chef de l'État a réitéré ce week-end devant le corps diplomatique sa détermination de ne pas dialoguer avec le M23. De son côté, Kigali conditionne sa reprise ou sa participation au processus de Luanda par le dialogue entre Kinshasa et les rebelles. On a suivi la position des États-Unis qui demande aussi à la RDC de pouvoir négocier, dialoguer avec les groupes armés, y compris le M23. On se retrouve là. Dans l'impasse, le processus de Luanda ne s'est pas continué parce que chaque pays campe ou chaque gouvernement campe sur sa position.
Merci beaucoup, Madame Kelly, pour l'invitation. Je voudrais aussi saluer les autres intervenants qui sont ici avec moi dans cette émission. Je sens comme s'il y a un retour quoi, dans le micro. Je crois que ça sera arrangé au fur et à mesure. Et donc, au niveau de l'Union sacrée, nous avions toujours soutenu la solution, le processus de Luanda. Le problème, c'est que c'est Kigali qui a changé de discours dernièrement. Souvenez-vous, on était presque à la réalisation de cette rencontre entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et le président Kagame. Et c'est Kagame qui a refusé de se rendre à Luanda. Et donc, c'était à la suite de toutes ces réunions ministérielles qui ont eu lieu. Et donc, le Congo, c'est pas que le Congo néglige la solution politique à travers les processus de Luanda, mais le problème, c'est que le Rwanda a à un moment donné accepté d'être finalement les porte-parole du M23 et d'imposer les dialogues, un dialogue direct entre Kinshasa et le M23. Et pourtant, le M23, c'est un mouvement qui a accepté d'être utilisé comme instrument dans cette agression. Et ça ne vient pas, c'est pas nous qui le disons, c'est les Nations Unies qui le confirment de manière insistante dans plusieurs rapports publiés par les groupes d'experts chargés de surveiller le respect de l'embargo sur les armes. Et donc, on n'a pas négligé la solution politique, mais le Rwanda fait à ce que nous soyons dans une situation où le gouvernement congolais, les FRDC, sont dans la légitime défense. Et dans la légitime défense, ça veut dire qu'il faut se défendre. On ne peut pas accepter qu'un mouvement qui bénéficie de l'appui du Rwanda puisse prendre des territoires, des espaces, des villages. Et on ne peut pas croiser les bras, raison pour laquelle le gouvernement s'active, organise la riposte et les opérations sont en cours. Et on a vu là-bas qu'ils essaient d'étendre un peu le champ d'influence, mm-hmm. parce que même au sud Kivu, maintenant, là, ils ont pris une localité dans le Calais. Ils essaient un peu d'ouvrir le front un peu partout. Mais les gouvernements ne croisent pas les bras, les FRDC ne croisent pas les bras, et mon parti, l'AFDC, l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo, appuie tous les efforts du gouvernement, que ce soit la légitime défense, et là nous sommes vraiment dans une légitime défense, nous souffrons d'une agression, nous ne pouvons pas croiser les bras, et le président Tshisekedi affiche une réelle volonté politique quant à ça. Et nous restons ouverts sur le plan diplomatique, mais pas ouverts à un dialogue imposé. Parce que ce que cherche Kigali, c'est de nous imposer un dialogue avec l'M23. Et pourtant, l'M23 n'est pas comme les autres groupes armés. Il y a un processus qui concerne les groupes armés. C'est le processus de Nairobi. Et je crois que Kinshasa n'est pas opposé. Dernièrement, je me rappelle, les gouvernements de la RDC avaient même évoqué les dialogues de Nairobi. Les processus de Nairobi. Le problème, c'est d'imposer un dialogue direct entre Kinshasa et M23. Ça serait une façon de vouloir humilier Kinshasa. Et donc, il n'y a aucun pays souverain qui peut accepter des choses comme ça. Alors, qu'il faut faire?
Je l'ai dit, chaque gouvernement campe sur sa position. Le processus est bloqué. On n'avance pas. On fait quoi?
Alors, le processus est
bloqué. Est-ce qu'on oublie Luanda?
D'abord, il faut se défendre quand on est attaqué. Ça, c'est naturel, c'est légitime. C'est ce que le Congo fait. On ne peut pas condamner Tshisekedi, on ne peut pas condamner le gouvernement congolais ou l'armée congolaise pour ça. Nous nous défendons puisque nous sommes attaqués. Et ils ne respectent pas les cessez-le-feu. Qu'est-ce que nous allons faire en retour? Nous nous défendons. Mais nous restons ouverts pour une solution politique. On reste ouverts. Mais pas à n'importe quelle condition. Pas à un dialogue imposé avec... un mouvement qui a accepté d'être utilisé comme instrument d'agression, à savoir la M23. Et alors, on est dans une situation où la communauté internationale devrait, en tout cas, intervenir.
Hein. Elle vous demande de négocier, plutôt de dialoguer avec les groupes armés, y compris le M23.
Mais depuis qu'ils ont demandé à ce que Kinshasa dialogue avec la M23, Kinshasa n'accepte pas, la RDC n'accepte pas. À un moment donné, ils devraient se rendre compte que ça ne sert à rien d'imposer un dialogue avec la M23. Ce que nous demandons, c'est quoi? C'est ce qu'a dit le président Tshisekedi aux ambassadeurs. Il faut des sanctions. Il faut des sanctions sur Kigali. Il faut monter davantage la pression sur Kigali. Ça, c'est un travail qui devait être fait. Au niveau de la communauté internationale, notre diplomatie, je sais qu'elle le fait. Mais autre chose aussi, il faudrait qu'au niveau de nos institutions, les parlementaires, par exemple, puissent vraiment activer ce qu'on appelle diplomatie parlementaire. Vous savez, il y a une structure au niveau des Grands Lacs qu'on appelle Parlement des Grands Lacs. Et donc, il y aurait lieu que les parlementaires congolais parlent avec les homologues de l'espace CIRGEL Et dans l'espace CIRGL, il n'y a pas que le Rwanda, il y a d'autres pays, il y a les parlementaires tanzaniens, il y a des parlementaires kenyans et tout, pour que dans les canaux ou à travers les canaux parlementaires, qu'une pression aussi soit exercée sur le gouvernement de Kigali. Donc il ne faut pas négliger aussi une approche diplomatique régionale qui pourrait être exercée à ce niveau-là. Il y a des structures non étatiques aussi qui devraient agir à ce niveau ici. Je sais par exemple que l'Église catholique est une force. Et il existe au sein de la région des Grands Lacs, ce qu'on appelle ACEAC, l'Assemblée des évêques de la région. Le pasteur pourrait aussi parler, parce qu'ils sont là pour prêcher l'évangile. Et ce sont des populations qui meurent, que ce soit partout, on jette des bombes à sac et un peu partout, la population souffre. Eh bien, il y a moyen aussi que par des canaux non étatiques, que l'on puisse arriver à persuader les Rwandais pour qu'une solution politique soit trouvée. Vous savez, à Luanda, on évoluait très bien. Il y avait des réunions ministérielles, il était convenu qu'on se mette d'accord sur un plan de neutralisation de FDLR et sur un plan d'élever des mesures de défense du Rwanda, c'est-à-dire la présence des militaires rwandais ici. Et tout ça, ça devait être acté. Hein. Ça, c'est le processus de Luanda. Et il n'est resté que cette rencontre entre le président Tshisekedi et Kagame. Mais celui qui a fait échouer Luanda, c'est qui? C'est le Rwanda. C'est le Rwanda, le refus pour le Rwanda de participer à cette rencontre bilatérale qui devait être le couronnement de tous ces efforts. Il y a eu plus de 7 réunions ministérielles à Luanda. Et le couronnement, ça devait être cette tête-à-tête, ces sommets. Mais qui a fait annuler les sommets? Qui est responsable de l'annulation du sommet de Luanda? Ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas le président Tshisekedi, ce n'est pas Madame Thérèse Kayikwamba, ce n'est pas le Congo. C'est le Rwanda qui est responsable.
Alors, on vous garde encore dans cette émission. La réalisation me signale que Bernardin est en ligne. On va l'écouter. Il nous parle un peu de la situation sécuritaire hein, dans le Nord Kivu, ainsi que les positions des deux gouvernements sur le processus de Luanda.
Bonsoir Bernardin.
Bonsoir Freddy.
Comment se présente la situation dans la zone des combats contre la rébellion du M23?
Oui, Freddy, il faut rappeler, pour commencer, que depuis l'annulation de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda le 15 décembre dernier pour signer un accord de neutralisation des FDLR assorti, comme vous le savez, d'un retrait des troupes rwandaises, les combats s'intensifient de plus en plus au Nord Kivu. Ici, nous notons des offensives simultanées des rebelles du M23 appuyé par le Rwanda, se succédant aux contre-offensives de l'armée congolaise appuyée par ses alliés, dont le Wazalendo. La rébellion du M23 s'étend actuellement vers le nord de la province, dans le territoire de Lubero et sur le front sud, en direction de Masisi, en occupant notamment la cité de Masisi Centre, celle de Ngungu, depuis ce week-end, en tentant une poussée vers la province voisine du sud Kivu, où les affrontements se poursuivent autour de Lumbishi et Minova, en territoire de Calais. De son côté, l'armée congolaise poursuit une importante campagne de contre-offensive pour tenter la reprise de Masisi Centre, de Ngungu, et stopper la pensée rebelle autour de Sake, puis en direction du sud Kivu.
Et donc, nous pouvons comprendre que les rebelles du M23 ont élargi leur zone d'occupation ces dernières semaines.
Oui, nous pouvons le dire, hein, et ce n'est pas sans conséquences, bien sûr. Il faut noter alors que cette rébellion avance sur les axes Lubero, au nord du Nord Kivu, et Masisi. Plusieurs localités du territoire de Rutshuru, au milieu, sont à présent dégarnies de leurs combattants. Selon plusieurs sources d'ailleurs, nombreuses localités de groupements de Bambo, Tongo, Bukombo et Giondo, chefferie de Buto, sont à présent réoccupés par les combattants Wazalendo alliés au FRDC. La situation devient donc invivable dans ces zones où se multiplient les embuscades de Wazalendo contre le convoi des rebelles, accompagnés par des actes de représailles de la part des rebelles envers les habitants. Cette situation, comme vous pouvez le deviner, accroît la pauvreté chez les civils vivant dans ces zones qui commenceraient à vivre du troc pour trouver de quoi nourrir leur famille.
Merci Freddy Bikumbi et Bernardin Nyangui. Espoir Ngalouki, vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République et coordonnateur de la Ligue des jeunes de ce parti dans la province du Nord Kivu. Alors comment vous analysez cette impasse dans laquelle on se retrouve aujourd'hui? Le chef de l'État congolais est catégorique. Pas de dialogue avec le M23. Kigali conditionne la poursuite de sa participation au processus de Luanda, justement par ce dialogue entre Kinshasa et le M23. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, merci encore de l'invitation. En fait, nous sommes dirigés par un président qui ne respecte pas sa parole. Il peut donner l'impression d'être très dur aujourd'hui, de ne pas dialoguer avec le M23, de ne pas dialoguer avec le Rwanda. Mais je ne serais pas surpris de voir qu'il peut changer de position dans les jours à venir. Parce que pour nous, dialoguer avec le Rwanda, c'est dialoguer avec les pères du M23. Ben, et la mère du M23, c'est bien évidemment l'Ouganda et tous ceux-là qui sont derrière. Mais le gouvernement congolais n'a toujours pas été en mesure de citer l'Ouganda parmi les pays qui soutiennent les M23. Il faut rappeler que notre gouvernement avait lancé 5 fronts pour mettre fin au M23. Il y avait les fronts judiciaires, les fronts diplomatiques, les fronts militaires, les fronts économiques et la communication. Et sur tous ces fronts, j'ai l'impression que notre gouvernement et notre pays est en train d'échouer lamentablement. Parce qu'il faut se rappeler, madame, qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 952 jours depuis que Bounagana a été occupé par le M23. C'était le 13 juillet 2022. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va encore continuer à penser que c'est le dialogue qui a échoué ou c'est la mauvaise volonté, la mauvaise gouvernance, l'incompétence au niveau de l'autorité de notre pays? Parce qu'avec l'état actuel, j'ai du mal à penser que la victoire militaire sera incessante. Et nous attendons à une victoire militaire. Parce que le dialogue, on va dialoguer sur base de quoi? Je suis d'accord avec le président. Il ne faut pas dialoguer avec le M23 si c'est l'objectif de les intégrer dans les FARDC. Mais il s'agit de dialoguer pour autre chose. Ben, on les écoute. On les écoute. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Mais on doit avoir, pour moi, la ligne rouge qui doit avoir lieu, c'est de dire zéro M23 dans l'armée du Congo. Ça doit être la principale ligne rouge et zéro impunité. Parce que ce sont ces choses-là dont la population ne veut pas entendre. Et aussi une autre chose, madame. Nous soutenons les processus de Luanda pour nous dans notre parti, parce que c'est un processus qui met sur la même table les deux véritables responsables de cette guerre. D'une part, il y a le président rwandais, Paul Kagame, et de l'autre part, il y a le président congolais, Félix Tshisekedi. Et nous soutenons également le processus de Nairobi. Bon, bien que la majorité de ceux qui étaient considérés comme des forces négatives il y a quelques années sont devenus peut-être ce qu'on peut appeler des forces positives. Parce qu'on ne sait plus si, parce que le gouvernement congolais les attaque plus et ils aident notre pays à protéger l'intégrité du territoire national. Mais est-ce qu'ils seront encore concernés par le processus de Nairobi une fois lancé? Et l'autre grand problème, c'est la sous-traitance de notre sécurité par le président Félix Tshisekedi et notre gouvernement. Parce que cette sous-traitance de la sécurité a montré ses limites. Nous avons des mercenaires roumains qui sont dans notre pays. Nous avons également la SADC qui est là. Nous avons le Burundi qui est là. Nous avons la MONUSCO qui est là avec l'opération Springbok. Et il y a les Ouazalénos qui sont là. Mais pourquoi il y a un échec au front? Pourtant, nous sommes pendant l'état de siège de la province du Nord Kivu. Et depuis que l'état de siège a été instauré, l'état de siège n'a mis fin à aucun groupe armé. Aucun groupe armé. Et aujourd'hui, notre armée n'a plus d'embargo. Parce que c'était une excuse à un certain moment. On nous disait, c'est parce qu'il y a des embargos, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en train d'avancer. Mais on cache certaines vérités à notre population. Nous avons une armée très puissante. Mais la plupart de nos militaires patriotes, ce sont ceux-là qui sont au front. Ils sont ceux-là qui sont au champ de bataille, mais ils sont victimes du mauvais traitement. Ils sont sous-équipés. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'information dans les camps ennemis. Nous sommes infiltrés, mais apparemment nous ne sommes pas capables d'infiltrer les camps ennemis. Il y a aussi un découragement dans les chefs de notre armée. Et ce découragement est dû à une impunité dont bénéficient les militaires, les officiers qui détournent les rations et même l'argent qui est censé donner une certaine motivation à nos militaires qui sont au front. Et cette fermeté du président de la République, c'est uniquement pour séduire la population qui est en dehors du Kivu. Mais est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous qui allons gagner?
Alors, pour vous, je vais vous redonner la parole, Juvenal Mouloubo. Alors, pour vous, Espoir Ngaloukié, il faut écouter le M23, mais la ligne rouge à ne pas franchir et celle de les intégrer dans les forces de sécurité de la RDC. Là, la RDC doit rester catégorique.
On ne doit pas les intégrer dans notre armée. Et on ne doit pas aussi promouvoir l'impunité. Si c'est cela qui doit être la ligne rouge, tant mieux. Mais moi, je ne peux pas l'appeler dialogue. Parce que on parlerait de dialogue s'il y a un sujet sur lequel on va parler. Mais ça peut être juste...
Discussion?
Puis on peut les écouter, peut-être.
Comment vous allez appeler ça? Comment vous appelez ça si c'est pas un dialogue? Des discussions?
L'écoute. Non, pas de discussion. On peut les écouter parce qu'on connaît... Et c'est nous qui sommes en train de souffrir, c'est nous la population qui comprend. Mais on ne dialogue pas avec les M23. Et une fois le processus fini, on ne les intègre pas dans notre armée. Ça doit être une ligne rouge très claire.
Mais le processus, vous parlez du processus de Luanda.
Exactement.
Qui est bloqué.
Malheureusement, c'est bloqué. De toutes parts, parce qu'il y a d'abord le président rwandais, visiblement qui est le père du M23, il s'est retrouvé cuit. Et même notre gouvernement qui pense que la solution viendra de l'étranger. La solution doit venir à l'intérieur, soit on répond politiquement, soit militairement. Mais penser que ça sera allé à l'extérieur, eh bien, on est en train de se tromper.
Professeur Moïla Tchiembe, vous êtes professeur et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy. En France, professeur, quelles chances s'accordent au processus de Luanda pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC lorsqu'on sait que les deux camps n'arrivent pas à se mettre d'accord?
Évidemment, comme il y a quelques mois déjà, lorsque nous avions discuté sur le même sujet, nous avions regretté le fait que le Rwanda ait boycotté le sommet de Luanda. Le gouvernement congolais s'est trouvé seul avec le médiateur, alors que le gouvernement rwandais, donc le président Kagame, n'est pas allé. Or, lorsque le dialogue était engagé, organisé, l'idée était que le président Kagame représenterait d'abord les intérêts du Rwanda, notamment la question de l'FDLR, qui était posée dans tous les forums. Le Rwanda considérait que le gouvernement congolais entretenait l'FDLR et que ce dernier pouvait, le cas échéant, avec le soutien de la RDC, venir prendre le pouvoir à Kigali. C'était l'argument avancé par le président Kagame depuis le régime de Mobutu. Alors, le président Tshisekedi fait ce qu'il pouvait pour accepter l'hypothèse d'aller discuter avec le président rwandais. Dois-je rappeler que la question de FDLR n'était pas, depuis le président Kabila, acceptée comme un élément de discussion avec le Rwanda. Alors, du moment où le gouvernement congolais a accepté de discuter de FDLR et de ce M23, pourquoi? Parce que la preuve a été apportée par les Nations Unies que le Rwanda, non seulement est derrière le M23, mais les soldats rwandais, les armes à la main, sont sur le territoire congolais. Ce qui change la donne. Savez-vous, madame, lorsque nous avons soutenu et continué à soutenir la thèse du dialogue, il faut se souvenir, et ceux qui nous écoutent, nous étions parmi les premiers Congolais à souhaiter le dialogue. en pensant que il peut le plus, peut le moins. Si ces hommes et femmes, éventuellement du M23, sont des Congolais, qui auraient pris les armes contre leur propre nation pour des revendications légitimes, on peut comprendre, indépendamment des crimes commis, on peut exclure ceux qui ont commis des crimes, d'ailleurs on l'a fait à l'époque du président Kabila, ou des exclure de l'amnistie, et voir la situation des autres selon les demandes réelles de tribunal. Et ce discours-là, nous l'avons tenu dans tous les podiums ou dans tous les lieux où il fallait discuter de la question de dialogue ou pas dialogue. Mais seulement, voilà, lorsque les choses vont changer, nous avons soutenu et continuons à soutenir que le dialogue est possible. Mais dans la mesure où le président Kagame lui-même accepter le principe de discuter avec le président de Tshisekedi d'État à État. Il était tout à fait légitime qu'en dehors du problème d'Efbeler qui était son cheval de Troie, il allait aussi discuter avec le président de Tshisekedi de l'avenir de la question du M23. Mais la surprise était générale de constater qu'à la dernière minute, le président Kagame s'est dérobé de la discussion au motif que le M23 doit lui-même discuter avec le gouvernement congolais. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Le président de la République, le président Tshisekedi, en tant que chef de l'État, il a peut-être plus d'informations que nous concernant ce refus et qu'est-ce qui se serait passé. Alors, vous posez la question de savoir est-ce que le processus de Luanda, encore une chance, mais madame, il n'y en a pas d'autre. À son corps défendant, le président angolais, soutenu par l'Union africaine, est devant les événements que nous déplorons, la guerre qui continue, les morts presque chaque jour, les gens qui fuient, hommes, femmes, enfants, dans des conditions inexplicables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel au bon sens, ce que nous avons déjà rappelé depuis des mois, implorant le président de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi et le président Kagame, d'aller au-delà des intérêts propres des chefs d'État et de leur pays pour pouvoir considérer que les violences qui se déroulent en République démocratique du Congo, la mort, chaque jour, les pillages sont inacceptables. Ça ne peut pas continuer. Mais alors, devant ce refus du président rwandais, parce que si le président Tshisekedi n'avait pas accepté d'aller à Luanda, on pouvait lui faire porter le chapeau. Mais il avait au moins accepté de discuter avec le gouvernement, le chef de l'État rwandais, avec l'assurance que ce dernier poserait le problème du M23, et que ça pouvait être discuté d'État à État, dans la mesure où, si le président Kagame retirait le soutien militaire qu'il a accordé au M23, probablement, le M23 ne se battrait pas pendant un mois contre les FARC et leurs alliés. Par conséquent, et d'ailleurs, dans le projet militaire qui était proposé, il était prévu qu'on commence la discussion sur l'FDLR, et après avoir vidé la question du FDLR, que l'on puisse discuter de la question du M23. Mais cette discussion a capoté dans les conditions que vous savez. Mais la difficulté, madame, est qu'il n'y a pas une grande puissance derrière le processus de Luanda. Il faut se dire la vérité. Si les grandes puissances avaient soutenu ou même manifester l'intention de soutenir, probablement les choses auraient changé. On parle des sanctions. Naturellement, le gouvernement congolais demande les sanctions. Mais qui doit prendre les sanctions? Le Conseil de sécurité est ce qu'il est depuis que la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Le Conseil de sécurité est bloqué. On n'y discute pas grand-chose. sauf si les gens préfèrent voir se raconter un peu de banalité et partir.
Et donc professeur, il ne faudrait pas attendre une solution de l'extérieur.
Oui, madame, mais ça, c'est la réalité. La réalité nous oblige, parce qu'il n'y a pas, il y a deux options du point de vue stratégique. Soit l'armée nationale, l'État bloqué et leurs alliés parviennent à vaincre l'M23 et ceux qui le soutiennent militairement, c'est-à-dire le Rwanda, et en ce moment-là, la République démocratique du Congo impose la paix par la victoire militaire. Or, compte tenu de la réalité sur le terrain, nous ne sommes pas encore en situation de pouvoir dire aujourd'hui, tel jour, la victoire sera là. Donc, tous les cris, nos appels aux autorités, notamment nos suppliques au chef de l'État, en lui demandant partout où nous sommes allés à l'invitation pour parler de la question, de lui dire, qui peut le plus, peut le moins, veuillez accepter de discuter. Mais à cette époque où nous soutenions cette terre, la preuve que le Rwanda militairement et derrière le M23 n'était pas apportée. Alors, depuis que l'ONU a porté la preuve, nous avons souhaité que le président de la République prenne langue avec l'autre président, en l'occurrence le président Kagame. À l'époque, c'était incompréhensible parce que les gens ne savaient pas ce que c'était. Mais les choses se clarifient. Tout le monde nous a donné raison à l'idée que la discussion devrait se faire entre les présidents. C'est ainsi qu'une certaine crédibilité a été accordée au processus de Luanda et les deux chefs d'État discutent de la question, à la fois sur la question propre de l'air qui concerne le Rwanda et la question du M23. Parce que sans le soutien militaire du Rwanda, le M23 ne serait pas là où il est aujourd'hui.
On vous regarde donc dans cette émission, professeur Moïla. Les auditeurs sont très, très nombreux à réagir, à nous envoyer leur point de vue. David Wedi, qui nous suit depuis Kinshasa, il pense qu'exclure tout dialogue avec le M23, c'est bien bon, mais on est en train de perdre nos compatriotes et nos terres. Fiston Bousso pense que le Congo doit passer aux actions concrètes en imposant la paix sur tous les territoires nationaux. Pourquoi le président ne veut-il pas déclarer l'état de guerre contre le Rwanda? C'est une utopie de croire que la sécurité et la paix viendrait des Occidentaux. Faustin Galamouloumé, qui nous suit depuis Kinshasa, nous saluons la position du président de la République de ne pas dialoguer avec les terroristes. Tout acte qu'on peut poser aujourd'hui sur cette question doit préalablement être jugé par rapport aux conséquences dans les jours à venir. On va ouvrir notre standard pour écouter aussi ceux qui appellent sur le téléphone. On va aller à Bukavu pour écouter cet auditeur.
Je suis Jules Maguenet, militant du mouvement citoyen Forum des nationalistes depuis la ville de Bukavu. Je pense que le processus de Luanda, bien qu'ayant fait des progrès, est entravé par des obstacles majeurs, notamment les combats persistants et l'implication du Rwanda. La médiation angolaise offre une lueur d'espoir, mais nécessite un engagement sincère de toutes les deux parties prenantes, le Rwanda et la RDC. La position de Félix Tshisekedi, qui refuse tout dialogue avec les M23, peut sembler rigide et contre la productivité. Nous pensons que, en incluant les dialogues, il risque de perpétuer la violence et la marginalisation. Une approche plus nuancée, combinant fermeté et ouverture au dialogue, pourrait être efficace pour instaurer une paix durable dans l'est de notre pays.
Je vais là, Almonobo.
Tout d'abord, avant de répondre à Monsieur Jules.
J'essaie d'être concis, hein, on court derrière le temps.
D'accord. D'abord, je voudrais revenir sur Espoir Ngalokie, qui intervient avec nous. Mm-hmm. En fait, il est de l'opposition, il dit qu'il est d'ensemble, mais moi, je crois que il demande carrément un dialogue avec l'M23. Et là, moi, ça m'a vraiment surpris, parce que nous sommes dans une situation où le Congo est agressé. Et puis, ça peut vraiment étonner que ce soit quelqu'un de l'opposition. Je ne sais pas si c'est la position de l'opposition, mais ça serait quand même regrettable qu'il demande à ce qu'on écoute les M23, qu'on dialogue avec les M23. Alors, on sait, alors qu'ils savent bien que...
Il a refusé qu'on utilise le terme dialogue.
Mais écouter les M23, ça veut dire quoi?
Qu'on écoute le M23.
On l'écouterait dans quel... Ça se ferait comment sur le plan pratique? Et donc, je comprends qu'il insinue la question du dialogue. Et je vois donc qu'il y a une contradiction à ce niveau-là. Parce que d'un côté, ils savent qu'on est agressé, ils regrettent par le fait qu'on soit agressé, mais de l'autre côté, ils semblent ménager l'M23 et finalement les Rwandais. Ça ne devait pas être une bonne position. Ce n'est pas une position républicaine. Et ça, je ne le dis pas
mais
seulement...
Il a insisté pour dire qu'on ne devrait pas franchir la ligne rouge,
bon,
celui de
il est allé dans les contenus.
Il est allé dans les contenus.
Ça, c'est les contenus. Ça, c'est les contenus d'un tel dialogue. Allez-y. Mais déjà, au départ, il est ouvert. Donc, il voudrait peut-être dire que l'opposition est ouverte à un dialogue entre Kinshasa et l'M23. Ça ne devait pas se faire comme ça parce que l'M23... C'est l'instrument qu'utilise le Rwanda pour agresser le Congo. Donc, ça ne devait pas se faire comme ça. Et ce qui est important à chercher ici, c'est la cohésion interne. Et ça ne sert à rien de tirer à boulet rouge sur le gouvernement lorsqu'on cherche cette cohésion. Il faut qu'il y ait des efforts de part et d'autre. Au niveau du régime en place, évidemment, il faut des efforts pour approcher l'opposition, pour créer cette cohésion nationale. Vous avez entendu le prof Moïla Tiembe. Sur le plan international, il ne faut pas attendre trop. Une intervention ou des pressions de la communauté internationale. Et donc, sur le plan interne, il y aurait moyen de créer cette cohésion interne. Mais on ne peut pas réaliser la cohésion interne lorsqu'il y a de la méfiance. Hein? Lorsque l'opposition tire constamment à boulet rouge sur le pouvoir, lorsque l'opposition donne l'impression qu'il appuie le M23. Et donc, il faut faire très attention avec certaines phrases, quoi, ou certaines prises de position. Et donc, moi, je crois que la possibilité pour que la question M23 soit entendue, ça devait être à travers Kagame, à travers un cadre bilatéral. Et là, le professeur Moïla Tiembe l'a bien dit. Et Kinshasa n'était pas opposé à un apaisement entre États. C'est la raison d'être du processus de Luanda, et le président Tshisekedi y était même. Mais c'est Kagame qui n'est pas arrivé à Luanda. C'est ce qui a fait à ce que ces processus connaissent l'impasse aujourd'hui. Et donc, moi, je crois que et on observait bien dans le concret que le Rwanda maintenant a tendance à mettre plus l'accent sur l'importance, à mettre plus l'importance sur la question M23 que même sur la question FDLR. Parce qu'à Luanda, il était convenu deux points. La question FDLR et la question des mesures de défense du Rwanda. Mais quand le Rwanda conditionne la reprise des pourparlers de Luanda par des négociations directes entre Kinshasa et l'M23, ça veut dire qu'en termes d'importance pour le Rwanda actuellement, la question qui compte plus pour le Rwanda, c'est la question M23, et que la question FDLR pour le Rwanda, il y a lieu de considérer que ça devient une question secondaire pour le Rwanda. Voyez un peu pourquoi le Rwanda est même pris dans son propre piège en refusant d'aller à Luanda. Et donc tout ça, ça devait être perçu. Il revient à notre diplomatie, au niveau de la diplomatie congolaise, de montrer ça à la communauté internationale. Comment les positions du Rwanda changent. Dans un premier temps, il était d'accord qu'on discute du plan de neutralisation de FDLR et de la question de la levée des mesures de défense. Deux points retenus pour Luanda. Mais de l'autre côté, il rejette tout en bloc et maintenant il place en première position la question des négociations directes avec l'M23.
Alors, vous avez parlé du processus de Nairobi. Il faut relancer le processus. Vous avez suivi la réaction de Espoir Ngalokie qui dit les forces qui jadis étaient considérées comme forces négatives aujourd'hui sont utilisées comme forces positives. Le processus de Nairobi servirait à quoi? Bref,
alors, il y a des programmes au niveau interne. Il y a les programmes des DDR, il y a les programmes de contrôle des armes légères. C'est deux programmes qui concerneraient Nairobi particulièrement. Donc ça n'empêche pas. Le fait, cette collaboration qui existe pour l'intérêt de la patrie, hein, on les appelle des Wazalendo, pour l'intérêt de la patrie à combattre l'agression rwandaise, ça n'exclut pas qu'à travers un processus avec les groupes locaux, qu'on puisse arriver à soutenir les DDR. Parce que normalement, ils devaient faire les DDR et il devrait aussi, à partir de Nairobi, on devrait aussi arriver à l'exécution d'un programme de contrôle des armes légères, parce qu'ils détiennent des armes.
Merci.
Donc ça n'exclut pas qu'on puisse booster, donner un peu de vitalité ou d'énergie à ces deux processus, DDR et contrôle des armes légères.
On va aller à Kananga, cette fois-ci au Kassai occidental, pour écouter cet autre auditeur.
Kaikai Kabasele Kalumba, depuis la ville de Kananga, province de Kassai central. Le dialogue est la voie par excellence pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais dialoguer avec les groupes armés, c'est encourager les actes qui violent même les instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Le processus de Luanda semble avoir échoué. L'option militaire devrait mettre fin aux aventures des ennemis de la RDC. Il suffit de bien équiper, bien motiver et bien former les forces de sécurité et de défense, et ce, grâce à la volonté politique manifeste des autorités publiques congolaises. Lorsque les approches politiques et diplomatiques échouent, l'option militaire suffit. On ne négocie jamais avec le diable, on agit.
Espoir Ngaluki, très brièvement, qu'est-ce que vous pensez du point de vue de Kaikai qui nous appelait depuis Kananga?
Oui, mais avant de agir, je voulais parler un peu sur ce qu'a dit l'honorable Juvenal Monobe, qui visiblement ne m'écoutait pas, ou soit il écoutait dans l'objectif de me contredire seulement sans entendre ce que je dis. J'ai bien dit ceci, parler avec Kagame, parler avec les Rwandais, c'est dialoguer, c'est parler directement avec le M23. Parce que c'est le Rwanda qui est le père du M23. Et parler avec le Rwanda ou avec le M23 pour les exécuter, quoi que ce soit, on doit avoir la ligne rouge, la première. On ne doit pas les intégrer dans notre armée. De deux, on ne doit pas accepter l'impunité totale. Et c'est exactement ce que disent les compatriotes de Kananga. C'est que dialoguer tout le temps avec des groupes armés, encourager d'autres groupes armés. Surtout si on les récompense positivement. Je vois, il y a même dans le gouvernement de notre pays, il y a des anciens rebelles. Dans l'Assemblée nationale, il y a des anciens rebelles. Dans notre armée, il y en a. Dans la fonction publique, il y en a. Dans les différents partis politiques de l'opposition, tout comme de la majorité, il y a ceux-là qui étaient des rebelles. C'est sur ce genre d'impunité qui motive de nouveaux groupes armés, qui motive d'autres jeunes intégrer les groupes armés. Mais pense pas qu'on va continuer à attendre à une solution miraculeuse. On est en train de se tromper. Parce que pour moi, il y a que deux solutions majeures. Soit la solution militaire pure et simple, on ne parle pas. Soit on écoute les jeunes. Il faut écouter. Et quand on écoute, on sait déjà qu'on a des lignes rouges. Mais quand aujourd'hui on nous parle même du processus de Nairobi, je voulais rappeler à l'honorable Juvenal Monobe parce que je pense qu'il y a actuellement il y a une porte ouverte aux terroristes du M23 pour le processus de Nairobi. C'est pourquoi même Uhuru Kenyatta a été à Luanda pour les sommets de Tshisekedi et Kagame. Et je pense que c'est ce qui me fait très mal avec notre président de la République. J'ai l'impression qu'il pense que la communauté internationale ou les Occidentaux vont aider à résoudre ces problèmes. Ces gens sont à la recherche de leurs intérêts. On ne doit pas chercher la compassion. Ils sont à leurs intérêts. Peut-être qu'ils se focalisent là où ils trouvent que leurs intérêts sont garantis. Et donc, on doit s'organiser à l'intérieur. Et il faut nous organiser à l'intérieur. D'abord, avec notre armée et les différents services de sécurité et de renseignement. C'est à ce moment-là qu'on va avancer. Mais il n'y a pas une question de dialogue avec l'M23.
Merci.
Je voulais bien les redire avec des mots très clairs. Et quand on dit, si dialogue il y en a, c'est avec les Rwandais, c'est les pères du M23, on doit avoir des lignes rouges. On ne doit pas les intégrer dans notre armée. On en a marre.
Merci, Espoir Ngaluki. Et cette fois-ci, on va aller à Onitouhi pour écouter ces derniers auditeurs.
Allons de Pianche Merveille, je vous appelle à partir de Bounia en Ituri. Le processus de Luanda visa à instaurer un dialogue entre les parties à conflit semble être un mécanisme complexe dont l'efficacité dépend fortement de la volonté des différents acteurs impliqués. D'un côté, le gouvernement congolais reste fermement opposé à toute forme de négociation craignant que cela ne permette de justifier leur action violente. De l'autre côté, les Rwandais semblent conditionner sa participation au processus par la mise en place des discussions entre Kinshasa et les rebelles. Cette situation crée un blocage difficile à surmonter, d'autant plus que les combats se poursuivent sur le terrain, rendant la confiance mutuelle nécessaire pour toute initiative pacifique difficile à établir. Ainsi, la réussite de ce processus repose sur la capacité des acteurs régionaux, internationaux, à encourager un compromis tout en assurant une pression suffisante pour mettre fin à l'escalade de violence.
Professeur Moïla, la réussite de ce processus repose sur la capacité des acteurs régionaux et internationaux à encourager un compromis, selon cet auditeur qui nous a appelé depuis Bounia.
Ben, disons, madame, que concrètement, si on tient vraiment compte de la réalité, comme Congolais, il nous reste à nous adresser au chef de l'État pour lui dire que c'est lui qui a la clé en main pour l'avenir de ce pays. Toi, les FARDC qui se battent corps et âme depuis des mois, gagnent la guerre et à ce moment-là, la République démocratique du Congo impose les conditions de la paix. Mais en attendant cette hypothèse, nous n'avons que le choix de demander au président de la République de reprendre le processus. Enfin, il ne l'a pas quitté, mais de reprendre l'angle avec le président Kagame. Évidemment, il y a eu de noms d'oiseaux, des choses que les uns et les autres se sont dit. Mais c'est à lui, vraiment, qu'incombe la responsabilité pour l'avenir de ce pays en tant que, le commandant en chef, en tant que président de la République, garant de la nation. Alors, ses fonctions de garant de la nation lui donnent les doubles clés. Soit son armée est capable, notre armée est capable, et en attendant que cette capacité soit prouvée, il a le devoir sacré de reprendre l'angle avec le président Kagame pour examiner toutes les hypothèses possibles, puisqu'il ne veut pas, ce qui est logique et que beaucoup de Congolais soutiennent. Au lieu d'aller discuter directement avec le M23, qui continue la guerre grâce au soutien militaire du Rwanda. Il faut toujours le rappeler. On a parlé de l'agression. Je dis que même la problématique première de dialogue que nous envisagions, et nous avons discuté de ça sur votre plateau et ailleurs, avait un sens avant qu'il ne soit démontré que l'agression est avérée. Parce que l'armée rwandaise, une partie de cette armée, est sur le territoire du Congo en soutenant les armes à la main, le M23. Alors, dans ce cas, il est tout à fait pertinent de demander au président de la République, certes, la tentative de chambre a échoué, mais de reprendre l'angle au nom de ce que la Constitution lui donne comme pouvoir. Merci. Il est la seule personne à pouvoir plaider la cause de la République démocratique du Congo, en bien ou en mal.
Merci, donc, professeur.
Si vous prenez l'angle avec le président Kagame, soit directement, soit par des voies indirectes des amis de ce dernier, il est tout à fait possible que si ce dernier accepte de le revoir, il est possible de régler la question du M23 seulement dans le rapport. Dans la suite de ce qui était déjà prévu.
Merci, professeur. Je vais dans le mot boulot. Il faut conclure. Nous sommes dans la conclusion. En quelques secondes, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire le prof?
Je ne suis pas d'accord avec professeur Moïla Tchiembe. C'est demander trop au président Tshisekedi de reprendre langue avec Kagame. Du moment qu'il existe une médiation, la médiation angolaise, João Lourenço, du moment qu'il existe la région, la CIRGL, d'autres cas de la SADC, etc. Moi, je crois que ça serait demander trop au président Tshisekedi, qui était à Luanda pour les sommets. Et c'est Kagame qui était absent. Et donc, lui demander encore de reprendre l'angle, ça serait difficile. C'est qu'il faut juste se rassurer si le président Tshisekedi reste ouvert à une solution diplomatique politique. Et j'ai dit oui. Il reste ouvert à une solution diplomatique et politique. Mais sauf qu'il a bien préciser la ligne rouge, c'est qu'il n'accepterait pas ce que Kagame veut lui imposer, les dialogues directs avec les Rwandais. Et là, c'est légitime pour un pays qui a été, pour le président d'un pays qui a été agressé et qui continue à être agressé.
Merci, Juvenal Munubo. Espangalou, qui est très brièvement aussi votre conclusion.
Alors, tout ce que je dois dire aux auditeurs, c'est que les conséquences de cette guerre ne choisissent pas de partis politiques. Ça nous concerne tous. Et les seuls, les principaux responsables qui doivent mettre fin à cette guerre, c'est le président de la République, à travers les autres institutions, notamment le gouvernement, sans oublier, en passant par notre armée, parce que nous n'avons qu'une seule armée, ce sont les FRDC. Et comme notre gouvernement, notre président a lamentablement échoué, s'il n'est plus capable de sécuriser...
Il dit sur base de quoi, lamentablement.
C'est lui qui a la parole, Juvenal. Allez-y, concluez.
Alors,
s'il vous plaît, Juvenal, allez-y.
Maître Juvenal, je vous ai laissé parler. Et juste par politesse, vous pouvez me laisser terminer.
Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Maître Juvenal, nous sommes à la fin de l'émission. Alors, concluez, Espoir Ngaloukié.
Il peut te dire les éléments
sur base. S'il vous plaît, laissez-le conclure.
Les bénéficiaires de cette guerre, ils sont partout. Ils sont dans notre pays, ils sont au Rwanda, en Ouganda et dans d'autres pays. Et il faut se rassurer qu'on va y mettre fin. Et pour y mettre fin, la principale voie, madame, c'est notre armée. Aussi longtemps qu'on va pas continuer, aussi longtemps qu'on va continuer à citer les noms de l'agresseur, c'est bien beau. Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est notre armée d'abord.
Merci.
Il faut que ça soit une armée dissuasive, une armée défensive, une armée républicaine qui soit bien prise en charge.
Merci. Professeur Moïla, en 30 secondes.
Donc pour l'instant, l'impasse est totale quasiment, mais c'est de la responsabilité des deux chefs d'État, du Rwanda et du Congo, de reprendre langue avec l'Angola pour relancer le dialogue. Il n'y a pas d'autre solution.
Merci, professeur Moïla. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe, je voulais dire, qui m'a accompagné dans la préparation de ce magazine. Jonathan Fonani, Clément Chimanga, Hervé Vokia. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Réalisation, Guy Maté, Grâce Amzati, Freddy Bikundi et Bertin Kassiama. Présentation et coordination, Kéline Kouté, Marda Sebujangwe, Martin Sebujangwe a supervisé ce programme. Restez branchés sur la fréquence de la paix.